cobas.com. Rencontre par Marc Sisman.
Yo. Un double 9-5 pour 1, retour à la source, décollage imminent. Colle à l'jouin, les gars de mon poste supportent le mouvement. Je dis fuck et fous le camp, car le rap c'est froc, mais c'est tout le temps. Puis reviens réglo, chacun de mes flots choque les petits les grands. Alors sort de la dilettante, voilà l'équipe qui sort du lot. Un sac majeur bien efficace, ambiancé par l'homme DJ Low. Et les types sont carrés frères, avec des rimes qui percutent. Une horde de zoulous derrière et 2-3 gars, j'y cuis les Mes parents se doutent de rien, pensent que la school me tient par les couilles. Donc je taffe l'année jour et le soir devient l'idole des foules. Ouais, et la capitale bouge la tête, hip-hop. De nouveau prendre l'ampleur, j'y chante mon envie de conquête. La musique ma source et les loups j'asteste. T'hallucines car ma troupe a le groove dans les veines.
On prend le rap à la source.
Rime sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
En 2-0 double 1, on rentre dans le jeu et les cartes changent de main. Donc lève les tiennes, on kick sec aujourd'hui comme demain.
On prend le rap à la source.
Rime sample et flow.
Un 995,
l'équipe qui te met des chiffres au micro.
Bonjour Jean-Pierre Chalbos et bonjour Mathieu Babble.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes tous les deux la source mastering. La source mastering, donc c'est votre caverne d'Ali Baba où on y fait du mastering. Vous êtes ingénieur du son en mastering.
Absolument.
Alors, chez vous, tous les types de sons, tous les types d'artistes passent entre vos doigts, vos oreilles, pour faire donc du mastering, cette étape. Alors, sur votre site, vous faites une petite métaphore, mais qui, je pense, est assez bien précise et qui définit assez bien ce que vous faites. Vous dites, on est un peu l'équivalent pour les ébénistes qui mettent du vernis, bah nous on met du vernis aussi sur les disques.
C'est voilà. Ça, voilà, tout à fait, c'est une bonne, c'est le côté artisanat aussi de la chose, qui est assez intéressante et ça donne une bonne métaphore effectivement de notre métier, qui est quelquefois pas forcément bien compris, ou c'est un mot qui est quelquefois, qu'on entend souvent, mastering, mais on sait pas exactement ce que c'est. Donc c'est cette dernière étape, c'est la toute dernière étape avant qu'un disque soit commercialisé, sous quelque forme que ce soit. Maintenant, c'est plus forcément support physique. Donc, en tout cas, après, c'est fini, il est commercialisé et voilà, on est acteur là-dedans.
Voilà, mais c'est une bonne image parce que, oui, effectivement, les gens ne savent pas forcément ce que c'est en même temps pas très important, en même temps ça l'est. Donc, voilà, c'est une bonne image, c'est la dernière couche, la dernière étape et puis...
On ne crée pas, mais on crée avec ce qu'on nous donne. Après, voilà, on ne part pas d'une page blanche, puisqu'il y a évidemment préalablement l'enregistrement, obligatoirement, le mixage, et cette dernière étape, le mastering, qui existe depuis super longtemps, depuis le temps qu'il y a des supports enregistrés, même à l'époque du vinyle. On ne disait pas mastering, mais c'était la même chose, en fait. C'était le même métier, on va dire, avec les outils d'époque, mais... pour graver sur support vinyle. Voilà, mais c'était les gens, les ingénieurs du son, il y en avait, et ils faisaient le même métier avec les outils d'époque, mais il fallait retravailler le son. Et puis surtout que là, il y avait une contrainte mécanique, donc c'était encore même plus chaud, on va dire, à faire. Parce qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas passer sur un vinyle, qu'on peut faire passer maintenant sur les supports numériques.
Alors vous êtes arrivé là, de quelle manière vous avez une formation d'ingénieur du son?
J'ai fait des cafés.
Formation café.
Voilà.
Métier qui commence par des formations café, d'ailleurs.
Bah, de nos jours, pour entrer dans ce métier, ouais, je crois pas spécialement aux écoles et tout ça. Enfin, après, bon, voilà, moi, je suis rentré, j'ai stagiaire, et puis petit à petit, voilà quoi. Si on y arrive et si on sait se rendre plus ou moins indispensable, on peut arriver là-dedans quoi.
Et moi, donc, pour ma part, ça fait 20 ans que je fais ça. J'ai démarré plus par de la restauration sonore avec les premiers systèmes numériques, CEDAR, les choses comme ça. Pareil, tout doucement, il y avait beaucoup de travail, donc j'ai été engagé par un studio. Et puis, petit à petit, j'ai appris aussi, j'ai regardé d'autres gens travailler, qui étaient d'autres ingénieurs qui étaient plus confirmés que moi et qui avaient plus d'expérience que moi. Et puis petit à petit, j'ai pris des séances et puis voilà, ça s'est fait comme ça.
Est-ce que les techniciens, on pourrait dire que vous êtes, avant ont été, j'imagine, ils sont toujours des mélomanes avant tout. Est-ce que ce sont des sujets, tout ce qui est son, qui étaient déjà importants pour vous quand vous étiez jeune enfant
et que
vous écoutiez de la musique, ou est-ce que c'est venu progressivement?
Du coup, avant de bosser là-dedans, moi j'étais beaucoup plus innocent par rapport à ce que j'écoutais. J'en avais un peu rien à faire du son, de la technique et tout. C'est vrai que maintenant, bon, on écoute un peu d'une manière différente. Bon, faut pas oublier que ça reste de la musique quand même. Et puis bon, la technique, voilà, mais... Mais c'est vrai qu'on a forcément une approche différente, on peut pas le nier, quoi. Mais...
Oui,
que la majorité des gens qui écoutent des disques, ils en ont un peu rien à faire de savoir comment ça sonne et machin, tout ce qui est important quand même, c'est la musique, quoi. Mais...
C'est, on est au service de la musique, c'est le premier, évidemment.
Faut pas perdre de vue ça, quoi, ni d'oreille d'ailleurs, mais il faut pas oublier que ça reste de la musique quand même, quoi.
La technique doit être, c'est un outil en fait, hein, ça c'est un outil, c'est au service d'un artiste, d'un projet, faut que lui soit content, parce que c'est lui qui va défendre son disque.
On est là pour justement, par rapport à l'exposition qu'il peut avoir après son disque, par rapport au public et tout, justement nous on essaye de rendre le disque meilleur, en tout cas le plus possible, et voilà.
Est-ce que c'est facile justement de se mettre dans la... Parce que vous avez, j'imagine, chacun votre vision sonore du son. Vous passez du hip-hop à la chanson, du rock... Mmh,
tout à fait.
Oui, dans la même journée, on peut faire beaucoup de choses.
Ouais, ouais. Donc j'imagine que comment ça se passe, vous êtes un peu comme un couturier qui doit faire un costume en fonction du corps qu'on lui donne, c'est-à-dire que ça soit un petit gros ou un grand maigre, il faut s'adapter et faire avec.
Complètement, ouais. Complètement.
Il faut très vite switcher, se mettre en condition de, voilà, le mec, faut pas oublier qu'ils ont passé peut-être 2-3 semaines, 1 mois sur leur projet, et qu'ils nous filent ça entre les mains, et qu'on devrait vraiment se mettre dans le bain tout de suite, quoi. Mais c'est vrai que d'une journée à l'autre, on passe de choses très différentes.
Mais après, ça, c'est l'expérience, et il y a des gens qui ça peut choquer, parce que notre moyenne, moi, je fais un disque presque par jour. Ouais. Donc je fais ça depuis presque 20 ans, donc ça fait un petit paquet.
365 multiplié
par... Pas 365, ouais, on va dire entre 250 et 300. Évidemment, il y a des projets qui prennent plus longtemps, il y a des projets, c'est arrivé sur certains projets qu'on puisse passer 3 jours, pas forcément consécutifs, mais et puis des projets où on puisse faire 2 projets dans la journée, parce qu'il n'y a pas énormément à faire, ou voilà.
Ouais, puis le métier a évolué là-dessus aussi, c'est-à-dire qu'avant, moi j'ai pas connu, ça fait que 3 ans que je suis dedans, mais à l'époque, tu passais 3-4 jours, une semaine à faire un disque, un album, et maintenant on peut faire 3-4 EP dans la journée, ou des titres éparpillés dans la journée, c'est plus c'est différent à ce niveau-là, quoi.
Oui, on n'est plus forcément en temps réel sur certaines choses, en tout cas
aussi,
voilà. Le temps réel, ça a vachement changé. On nous amène les masters sont souvent sous forme de disques durs.
Oui, ou même par internet, il n'y a plus de notion de bande à apporter, il n'y a plus de tout ça. Voilà.
Alors il y a encore des projets sur bande analogique, DAT, bon, c'est vraiment un peu obsolète, c'est très rare, mais donc des supports temps réel, on va dire. Donc tout ça, c'est fini, effectivement.
Aussi. Puis les gens se déplacent de moins en moins pour le mastering aussi.
Ce que j'allais vous demander, parce que vous devez avoir face à vous des artistes, des groupes, des formations qui sont pour certains pas experts, mais qui s'y connaissent déjà un peu, qui connaissent bien le sujet, qui maîtrisent, qui ont des envies peut-être.
Soit c'est des
et d'autres, au contraire, qui sont complètement novices.
Soit c'est des anciens, là, Higelin ou Murat, qui connaissent très bien Jean-Pierre depuis des années et qui le laissent faire. Soit c'est des jeunes artistes qui veulent un peu voir ce que c'est le mastering, qui se déplacent, mais la plupart du temps maintenant, les gens ne se déplacent plus, et de toute façon c'est pas plus mal forcément, parce que le mastering t'es plus en phase de production, donc tu dois écouter le disque, je sais pas, dans ta voiture ou dans ta salle de bain, machin, c'est l'idée, t'es plus en phase de production, donc ils nous envoient les fichiers, on fait le mastering, on leur envoie, ils écoutent, et puis ils nous disent sur des écoutes qu'ils connaissent, et puis... Et voilà, et c'est pour ça que tout va plus vite aussi à ce niveau-là, quoi.
Puis ça devient, en fait, la transformation qui devient un produit après. C'est pas l'artiste qui est un produit, hein, mais c'est l'objet en lui-même. Et donc c'est cette transformation-là. Donc après, effectivement, l'artiste, faut qu'il ait aussi un petit peu de détachement à un moment donné, que ça sorte de chez nous. D'ailleurs, en tout cas, de cette phase, de cette dernière étape, donc le mastering. Faut pouvoir s'écouter comme un disque. C'est vraiment moi, mon métier, je dis, c'est de que ça sonne comme un disque. Et un disque, ça, parce qu'on n'écoute pas en studio. On écoute maintenant. Il y a plein de moyens différents d'écouter la musique. Ça va du baladeur jusqu'à la chaîne hi-fi, et qui peut être de super belle qualité aussi. Mais c'est le même disque qui est quand même à la racine et qui va être écouté sur ces différents supports.
Depuis que j'ai croisé dans l'escalier du métro aérien le sourire enfantin aux lèvres d'une beauté printanière, que la flèche de son regard moqueur s'est plantée dans le mien, coup de foudre assassin, en plein cœur, m'envoie tout droit au septième ciel, où l'amour fou m'a donné rendez-vous, tout en haut de la tour Eiffel. Vertige amoureux, baisers qui s'envolent sur les ailes du vent, serments éternels gravés dans le bleu du ciel. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. Mais y'a de ça. Comme la petite boule bleue qui nuit et jour tourne autour du soleil. Jour et nuit, moi je veille sur les étoiles qui brillent dans tes yeux. Sans poser les pieds au sol, on peut faire tous les tours qu'on veut sur le grand manège amoureux qui nous emmène au septième ciel. Cheveux au vent, battant les ailes dans les courants ascensionnels, le givre et le gel, la neige et la grêle fondent en pleurs devant nos aveux gravés dans le bleu du ciel. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. C'est pas que je t'aime, 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 t'aime. Mais y'a de ça.
Justement, évolution de support, de méthode, de technique d'écoute, comme vous venez de le décrire. Évolution également du support enregistré. On a évoqué le vinyle au début, ensuite on a eu le CD, les cassettes, maintenant la dématérialisation. Il y a eu une P3 uniquement au début et maintenant différentes qualités sonores. Est-ce que ça sous-entend qu'également votre métier, votre façon de travailler, a elle aussi évolué ?
On en tient compte. Après,
pas spécialement, c'est pas de toute façon.
Il faut en tenir compte, mais il faut vraiment le but principal, c'est de rendre un disque, quand c'est un album en tout cas, donc avec construit, avec des nuances et des choses comme ça, c'est vraiment rendre l'objet en lui-même le mieux possible, évidemment, c'est et qui s'écoute agréablement sur tout type de support, et jusqu'au broadcast, en fait. Faut aussi penser à cette étape de broadcast qui va être après diffusée, parce que idéalement, il faudrait faire des masterings différents pour plusieurs types de médias, mais on s'aperçoit, vu les contraintes budgétaires un petit peu maintenant, que c'est pas forcément le cas, quoi. Donc, il faut essayer de faire en une fois le mieux possible.
Oui, on fait le mieux possible pour que ce soit après décliné dans différents formats.
Plus, peu le moins, mais voilà. Après, donc, c'est au départ. C'est pour ça que travailler dans les hautes résolutions, tout ce qui est studio et tout ça, on travaille tous avec des hautes résolutions parce que ça donne plus de latitude pour travailler. C'est évident.
Est-ce que vous avez senti justement une baisse de qualité de niveau par rapport à, surtout avec la dématérialisation au début, MP3, pas mal d'ingénieurs du son, de preneurs de son, se sont plaints de tout ce qui est perte dynamique et autres.
C'est clair, mais après on est aussi fautif, on met trop fort sur les disques, et on est fautif de ça, hein. Mais c'est, en même temps on répond à une demande d'artistes.
Ils veulent tous toujours plus fort que
plus
l'autre.
On veut mélanger tous les genres. Il faut que tous les genres soient au même niveau et c'est une espèce de standardisation. Bon, je pense qu'il y a maintenant, c'est en train de
on en revient de ça.
On en revient de tout ça parce que on a fait des grosses erreurs sur ces trucs à mettre tellement fort, à tordre tout du long, et c'est inécoutable, ça fatigue, la fatigue auditive qui est. C'est bien, c'est qu'on en revient un petit peu quand même. Donc, c'est la course au niveau, on va dire qu'elle est quand elle commence à un petit peu se baisser, et parce que ça flingue un projet, ça, ça peut vite flinguer. Alors, sur certains projets, ça marche très bien, sur certains types de musique, en fait, ça dépend comment elles sont produites. À la racine et à la base, et des styles.
Oui, sur de l'électro, ou sur du rock un peu dur, ou sur ce genre de trucs, ça peut marcher, mais il y a des trucs qui s'y prêtent pas du tout, quoi, de mettre un niveau de dingue sur tes disques.
Mais puis ça, on a quand même un bouton de volume sur sa chaîne, faut pas l'oublier, donc c'est un peu, voilà, on veut, mais ça, c'est un peu dans l'air du temps, hein, c'est tout standardisé un petit peu, et c'est bon, c'est dommage. La musique, c'est pas ça, quoi.
Mais c'est vrai que pour revenir au format, nous, on n'y prête pas forcément beaucoup d'attention, parce qu'après, les gens, ils en font ce qu'ils veulent, quoi. Ils en font du MP3, ils en font du wave, ils en font de. Pour la diffusion, après, bon...
Bon, on conseille, mais on est prestataire de service, donc à un moment donné, c'est plus que ça nous regarde
c'est pas. C'est juste mais... le seul truc qu'on s'impose, c'est qu'on n'accepte pas de MP3 pour bosser, nous, à la source.
Voilà. Oui, à la racine, parce que là, bon...
Ça arrive.
Ça arrive, et surtout que non, il y a des gens qui... ça peut arriver, ils nous disent mais c'est un problème et là
les gens comprennent pas forcément parce que
on faut expliquer un petit peu mais
le mec il dit c'est du wave mais c'est déjà passé en MP3 et ça ils comprennent pas forcément mais bon. Mais ça c'est vrai que c'est le truc qu'on s'impose, c'est voilà.
Est-ce qu'il y a une difficulté aussi finalement par rapport à ce côté de rythme quand même assez soutenu, comme vous l'avez dit, c'est quasiment un album par jour de
Non, on va pas se plaindre en même temps.
Oui, non bien sûr, non, ce que je voulais dire c'était qu'évidemment, il y a l'avantage de dire c'est très bien d'être multigenre, de pouvoir passer le lundi de faire de la chanson, le mardi du rap, etc. Mais est-ce que finalement l'oreille, votre oreille arrive à suivre? Est-ce que quand on est comme ça dans un flow certes économiquement bien, on va pas se plaindre comme vous dites, on arrive aussi également à avoir un spectre personnel de vision sonore assez malléable et qui arrive justement à s'adapter
et faut rester au fait, c'est-à-dire qu'il faut écouter de la musique quand même et pas qu'en studio et puis
le soir on se fait des sessions,
voilà,
on écoute des trucs,
faut écouter des choses, voilà, après c'est de la culture musicale on va dire et puis donc
c'est vrai qu'on rentre pas forcément dans le morceau ou dans l'artiste entre guillemets comme quand tu fais du mix où là vraiment tu te plonges dans le truc et voilà, et pendant des jours et des jours tu bosses sur un titre. Là bon, certes on a quand même une grande marge de possibilité dans le mastering, mais c'est pas aussi intense que quand tu fais des prises ou du mix où là vraiment.
Puis de plus en plus quand on fait des projets, on le fait. Tout le monde écoute de son côté, donc les principaux intéressés, les artistes, les producteurs, réalisateurs, ingénieurs du son et tout ça, et nous-mêmes aussi. Et avec un peu de recul, on voit aussi si on est satisfait, si tout le monde est content du travail et s'il y a peut-être des petites retouches à faire, des choses qui peuvent être souhaites de notre sort, donc vraiment purement du mastering, ou alors quelquefois il faut que ça remonte d'une étape en mixage un petit peu. Et maintenant, avec les outils informatique, faire un petit recall, c'est pas grand chose, c'est facile, c'est ça qui a beaucoup évolué. On peut travailler par couche en progression comme ça jusqu'à temps qu'on se dise bon ben là oui, tout le monde est content, c'est vrai que c'est mieux, ça valait le coup de revoir un titre, revoir ça. Puis en général on prend une orientation au début et on regarde si les gens sont contents, si ça va dans ce qu'ils veulent entendre, parce que les artistes, quelquefois, n'ont pas aussi le langage technique, mais on s'en fout de la technique à un moment donné, c'est le rendu. Donc, en gros, on met des graves, des aigus, et c'est ça notre métier, mais avec voilà, des outils plus fins et tout. Mais,
Comment vous travaillez avec les producteurs ou preneurs de son, ingénieurs du son, etc., des enregistrements? Est-ce que...
On a un peu notre petit groupe de préférés, on bosse un peu toujours
De préférés qui sont dans les deux sens, en fait. C'est-à-dire qu'on travaille, il y a une collaboration.
On travaille avec eux, ils travaillent avec vous.
Voilà. Depuis longtemps, on sait, on connaît chacun, on sait ce qu'ils aiment bien, comment ils travaillent et ce qu'ils attendent de nous aussi. Et donc,
S'ils viennent chez nous, c'est qu'il y a une raison, et puis voilà.
Après on propose, en fait c'est vrai que nous, alors moi quelquefois ça peut être un peu tendu, c'est-à-dire que sur certaines productions on va aller dans une direction et puis l'artiste pas du tout. Bon après soit il peut aller ailleurs aussi si c'est pas c'est, Alors nous, on n'impose pas. Après, au bout d'un moment, c'est soit on peut le faire ou on peut pas le faire. Il y a des choses qu'on ne peut pas faire aussi. Et puis voilà, donc c'est un dialogue à un moment donné. Et puis je vous dis, c'est surtout en écoutant à l'extérieur, plus tellement dans les studios, mais en écoutant voilà, d'une oreille quelquefois plus distraite, on va dire. Mais quand on est distrait, on met le doigt sur souvent là où ça fait mal, sur certaines petites erreurs entre guillemets. Et puis après, c'est des goûts et des couleurs. Hein. C'est des choix. Pour un artiste, une voix devant, c'est ça, et pour un autre, ça va être encore plus ou encore moins, peu importe. Il y a une règle, c'est qu'il n'y en a pas dans le son quand même. Tout ce qui compte, c'est le résultat et comment on agence tout ça.
Est-ce que les demandes sont les mêmes quand ce sont des artistes français ou des artistes étrangers? Comment vous voyez, comment est perçue cette étape du mastering ailleurs, et même de l'autre côté, aussi, deuxième question, ça serait de savoir, effectivement, vos confrères à l'étranger, les méthodes de travail, finalement, sont-elles aussi uniformisées, ou on sent vraiment des écoles différentes par rapport à ça?
Oui, les Anglais, oui, ils ont de façon différente.
Oui, oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a plus tout ce qui est anglo-saxon, d'une manière générale, ils s'en foutent, ça veut dire qu'ils s'impliquent pas dans cette étape-là, ils veulent un résultat. Et fais ton job et voilà. Et je te dirai si ça me plaît ou pas. Alors que souvent en France, les gens veulent essayer de savoir, essayer de donner des orientations tout de suite au lieu de laisser faire le gars et puis de dire voilà. Donc c'est ça, les anglo-saxons en général, ils donnent un projet, vas-y, fais ton job, c'est ton job, moi je m'en mêle pas.
Français discute, ils peuvent pas.
Voilà, mais ça c'est aussi
dans la mentalité.
Donc ça, les deux sont bien. C'est vrai que c'est différent, non? C'est différent. On travaille pas mal avec des étrangers, des Anglais, des Anglo-Saxons ou même des Allemands, des choses comme ça. Quand ils donnent un projet, vas-y, fais c'est ce que tu peux. Moi, j'ai fait ma partie du travail quand c'est un ingénieur du son ou un réalisateur. Moi, j'ai fait mon truc. Vas-y, dis-moi comment tu vois le truc. Et puis,
ouais, c'est plus ça plaît ou ça plaît pas. Ça,
voilà,
je l'aimerais comme ça. C'est bon, ça plaît ou ça plaît pas. Et puis. Ils sont plus directs. Mais c'est pour ça qu'il y a pas mal de Français qui se cassent les dents un peu, parce que les Américains, c'était les premiers à développer un peu le mastering online, où t'envoies tes fichiers, ils le font, ils te le renvoient. Et c'est vrai que les Français, quand ils essaient de discuter avec les Américains, bon, au bout d'un moment, les Américains disent « c'est comme ça et ça doit être comme ça ».
James Dean, for sure. You're so fresh to death and sick as cancer. You're so punk rock, I grew up on hip hop, but you fit me better than my favorite sweater. And I know that love is mean and love hurts, but I still remember that day we met in December. Oh baby, I will love you till the end of time.
comment vous avez vécu, vous vivez cette période de transition qui est maintenant plus qu'entamée, de dématérialisation de la musique. C'est-à-dire que voilà, on livre un support.
C'est, vrai, c'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est un peu à notre avantage, parce que du coup, on bosse vachement comme ça. Et du coup, c'est plus facile et c'est une certaine flexibilité dans le niveau du job, quoi. Parce que voilà, on nous envoie les fichiers, on bosse, on les renvoie et c'est. Nous, ça nous facilite les choses un petit peu.
Il y a du dialogue, toujours avec les intéressés, mais plus de la même manière. Ce n'est pas forcément en cabine, parce que quelquefois, ce n'est pas une perte de temps, mais presque, en fait, parce que les gens qui viennent dans les studios, ils ne connaissent pas notre écoute, notre façon. Ça peut pas sonner bien partout, ils sont perdus, ils entendent ça comme ça, eux, ils l'avaient entendu autrement. Ben oui, on n'avait pas les mêmes enceintes et tout ça. Donc, peu importe, ça, ce n'est pas grave. Moi, je connais mon système, je sais ce qui rend. Après, je te propose, tu t'écouteras sur ton système à toi, c'est là où tu me diras ça me plaît ou ça me plaît pas. Mais bon, en général, ça plaît, parce qu'on sait, on a un système qui marche bien et voilà.
Est-ce que technologiquement, au niveau du matériel, il y a des grosses évolutions récentes qui ont, pas chamboulé évidemment votre profession, mais qui ont vraiment marqué des étapes?
Le mariage de l'analogique et du numérique, ça a été une grosse étape.
Puis tout ce qui est player, c'est-à-dire de travailler sur des ordinateurs, donc des digital audio workstation, et tout le monde travaille sur ce genre de machine maintenant, peu importe la marque ou tu vois, le truc, c'est ça permet effectivement une souplesse de recall, de travailler en multipiste quelquefois, même au mastering, ce qui ne se faisait pas il y a encore une 10-15 d'années, ou ce qui était plus tendu, on va dire. Donc, c'est-à-dire travailler, le cas typique, c'est un instrumental et les voix à part, parce que les gens en studio sont pas forcément sûrs des niveaux de voix, et puis selon le traitement qu'il y aura au mastering, on va devoir les rentrer ou les sortir. Selon, c'est des choses qu'on ne faisait pas quand il y avait encore des supports linéaires, c'est-à-dire bon, les DAT, les choses comme ça, parce que c'était lourd. Et ça se faisait en studio, c'est-à-dire qu'on tournait beaucoup de versions, et puis après, on choisissait laquelle on voulait emmener à la gravure ou au mastering. Là, maintenant, les gens, ils tournent un mix, et puis de référence, et puis ils tournent des éléments séparés, ce qu'on appelle du stem mastering, ce qui se fait maintenant très couramment, en fait.
Est-ce que votre studio La Source s'occupe également de remasterisation, de réédition, de nettoyage, etc.?
Oui, tout à fait. On a fait des très très belles rééditions avec des originaux, avec des bandes. J'ai fait beaucoup de rééditions de Henri Salvador, des enregistrements des années 50, avec les bandes d'origine en 76 cm seconde, quart de pouce, pleine piste, mono. Et là, c'est du bonheur.
C'est un autre type de travail. Là.
Ah, c'est un autre type de travail.
C'est du sport, des fois.
C'est pas du sport, mais là, le principal travail, c'est de lire les sources le mieux possible. Et une fois qu'on a une très belle acquisition de sources, on peut retravailler un petit peu, mais on s'aperçoit qu'il ne faut pas faire grand-chose quelquefois. Il faut surtout capturer le meilleur du meilleur. Donc, il faut avoir les originaux. Alors là, quand c'est des bandes... Alors, les bandes, elles ont des problèmes inhérents. Hein. Il y a des bandes qui déposent. Ça veut dire que toutes les petites particules magnétiques restent devant les têtes. Donc, ça veut dire qu'il faut faire un process particulier. Les bandes, on les met à chauffer pendant 7-8 heures dans un four spécial avec un degré d'hygrométrie. Ensuite, on les lit. Et là, elles redeviennent comme avant. Il y a la lecture de vinyle. Quand il n'y a plus les bandes, il faut bien relire des vinyles, des 33 tours, des 45 tours, des 78 tours. Là, il y a besoin de traitement numérique pour décliquer, essayer de rendre ça plus agréable à l'écoute sur des systèmes, surtout sur des systèmes maintenant qui sont quand même plus... qui vont dans les fréquences beaucoup plus grandes que quand c'était le 78 tours, et voilà.
Avec, j'imagine, la difficulté de ne pas dénaturer son origine.
Parce en laissant le son d'origine et en gommant les défauts. Alors, ça fait
c'est pas la même approche qu'un mastering classique. Quoi. Là, c'est vraiment essayer de ne pas dénaturer la chose et de la rendre la plus agréable.
Oui, pas lui donner un son année 2000 alors que c'est...
Gommer et lire au mieux comme c'était, idéalement comme c'était. Mais donc avec des bandes analogiques. Donc souvent,
mais c'est super intéressant, des fois il y a des trucs.
Et on s'aperçoit que les choses étaient très bien faites quelquefois. Même avec la mono, par exemple, on donne de l'espace. Hein. Sauf que au lieu d'être en largeur, il est en profondeur.
Les grands débats sur est-ce que les Beatles c'est mieux en mono ou en stéréo. Ce genre de choses. Quels sont les projets sur lesquels vous avez travaillé à la source régulièrement, récemment plutôt?
Alors,
il y en a tellement.
J'avais noté un petit peu des choses. Là, qu'est-ce qu'on a fait très récemment
On a fait 1995, qui sont devenus des potes. On a fait Mina Tindall. On a fait
Sœur Alice, du Bob Sinclair. Je travaille beaucoup avec Chris Lefriand de Yellow Productions depuis des années. Junior Caldera, des BO de films, la BO du dernier Clo-Clo.
Ça c'était intéressant.
C'était intéressant aussi parce qu'il y avait là, on avait des choses à retravailler qui étaient entre du mix et du mastering, c'est-à-dire qu'il y avait des trois pistes originaux qui avaient été déjà transférées des bandes originales des années 60, on va dire. Et fallait refaire une petite balance entre guillemets, c'est parce que là c'est pas vraiment du mixage, c'est une balance, on va dire.
Avec notre ami Slim Pesin.
Voilà, avec Slim Pesin. La BO du dernier La Vérité 3, La Rousseau, des étrangers, des groupes de métal contre-rust allemand, c'est...
Donc c'est la palette...
Françoise Hardy, c'est le dernier album, ça a déjà une petite année. Des Palmas cet été,
aussi bien que ce soit les gens avec lesquels vous aimeriez travailler, ou alors même en termes de développement technologique, technique, ou des directions vers lesquelles vous aimeriez emmener votre studio À première vue, pas comme ça.
Non, moi, j'aime bien ce qui est réédition, mais vraiment avec des beaux enregistrements et des.
Vous aimeriez, vous avez des rêves, des rééditions qu'on vous confie des bandes.
Ouais, du Hendrix, moi, c'est pareil, je cite tout ça, avoir des originaux d'Hendrix.
Qui ont été remasterisés un nombre de fois.
Voilà, plein de fois, évidemment, ça a été long. Donc, c'est déjà fait, je le ferai pas, on va dire, mais voilà, c'est avoir ce genre de belles bandes entre les mains et retravailler ça, c'est toujours agréable. Parce que moi, c'est ça, je suis venu à ça parce que j'aime la musique évidemment, mais j'aime le support enregistré. Donc c'était à mon époque, c'était les vinyles, et j'étais toujours un fanat de lire les crédits, de lire les gens qui travaillaient derrière, donc les gens qu'on voit pas en fait. Et c'est ça, et là quand on a des bandes, on a encore plus d'infos parce qu'on retrouve des trucs à la racine, donc c'est ça qui est intéressant, les petites notes, les choses, les écritures d'ingénieurs, tout ça j'aime bien effectivement. Puis après, c'est juste, c'est des relations humaines, en fait. Avec certains artistes, ça se passe super bien, on est proches, on va dire. Et c'est très agréable de travailler comme ça. Donc,
Et les mélomanes que vous êtes, quand ils écoutent de la musique autre que celle sur laquelle ils travaillent, ils écoutent quoi, en général? Vous en écoutez toute la journée? Est-ce que vous écoutez du silence le soir?
C'est pas la même écoute, évidemment. Ouais. Quand on est dans le studio et qu'on travaille, on n'écoute pas la musique. La musique, vraiment, on mentirait si on disait le contraire, on peut pas. On écoute la production, le son, on nous paye pour ça, donc on n'est pas là à se dire, à prendre des grandes...
Mais il faut savoir s'en détacher, c'est vrai, quand on rentre à la maison, on écoute de la musique pour le plaisir. Et
voilà, et mais moi je suis un des cordonniers les plus mal chaussés, j'écoute sur un petit truc de base, voilà, j'aime bien sur mon petit Tivoli écouter la musique en mono, sur un large bande, ça me paraît, j'adore, et quand ça sonne là-dessus, je suis content. Voilà, en fait, ça c'est mon cahier des charges principal en général. Et quand ça sonne en airplay, c'est-à-dire en broadcast, bon, alors pas sur NRJ parce que c'est un peu dur quand même le son, mais sur du France Inter, du machin, où on laisse quand même un petit peu de dynamique à la musique et on ne la surcompresse pas. Quand ça sonne comme ça, j'aime bien le son FM, la vraie FM en fait.
Est-ce que justement on n'a pas l'oreille et pas un peu déformée ou biaisée, c'est-à-dire que quand on écoute pas pour le boulot, j'allais dire, est-ce qu'on n'a pas malheureusement des petits tics de se dire oh là ça a été produit comme forcément. Ci, ça a été sorti comme ça, etc.
Oui, est-ce toujours. Mais après on écoute le résultat. Alors moi j'ai du mal quelquefois à juger le mastering tout seul quand on n'est pas dans le projet et qu'on ne sait pas comment c'était avant, c'est impossible. Donc même moi on le fait pas. Je dis que ça sonne bien, c'est super, voilà. Et en général quand un disque sonne bien, c'est que toutes les étapes sonnent bien. Parce que c'est pas vrai, depuis les bases de l'enregistrement, depuis le tracking, donc les prises, le mixage et le mastering, toutes les étapes sont bien. Et quelquefois le plus dur en mastering, c'est de faire le moins possible. C'est ça bon, c'est quand on a aussi une très belle production entre les mains, c'est de faire très très peu de choses.
Mais le terme sonnait bien, après, c'est, tout est relatif.
Voilà,
hein. Puis c'est des disques, t'écoutes Motorhead, ça sonne pas, mais ça sonne comme ça doit sonner. Après,
voilà.
On peut pas faire de magie non plus avec la mauvaise musique. C'est-à-dire que si on vous donne de la mauvaise musique, c'est...
Non, mais la mauvaise musique, ça vous regarde même pas, à la limite, dans un sens. Mais effectivement, c'est juste qu'il y a quand même des... Bon, il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. Pour faire, pour qu'un mixage marche bien, quelquefois, il faut que l'arrangement musical soit bien, parce que c'est un peu l'arrangement dans la musique, c'est un petit peu le mixage, mais vraiment dans la musique en elle-même. C'est déjà une pré-étape. Et si on sait que ça va être enregistré et que ça va faire un disque, on a qu'à encore appeler ça un disque, même si c'est plus un disque physique, voilà, ça doit être quand même un petit peu préparé, on va dire.
Ce qu'on a vu dans la BO de Clo-Clo, par exemple, c'est vrai que les arrangements de Varietoche des années 70, c'était quand même autre chose, quoi.
Oui, c'était très bien fait, c'était écrit, c'est pensé, tout ça. Bon, après, c'est pas de la nostalgie non plus. Il y a des choses super bien dans les choses de maintenant, évidemment, et il y a des gens qui sont complètement néophytes, qui sont musiciens, qui sont DJ et tout ça, mais qui se débrouillent super bien et qui exploitent maintenant. Mais d'une façon incroyable, quelquefois ils arrivent en studio de mastering, ils se sont dit « Ah, j'ai fait tout mon truc tout seul dans mon coin, je suis pas sûr et tout ça. » Le type dit « Ah ben non, c'est super, ton truc change rien, au contraire, c'est parfait. » Pas tout le temps, mais ça arrive. Donc c'est des bonnes surprises aussi, quelquefois. Parce qu'après, quelquefois les gens qui vont dans des gros studios, ça sonne pas forcément non plus. Bon, c'est pas... Il n'y a pas de règle, voilà, c'est ça, les gens, c'est de la recette, c'est de la cuisine en fait, hein. C'est comment faire un plat, un mixage, c'est ça, on a des ingrédients, on doit les mettre ensemble, puis quelquefois ça...
Ouais, mais c'est vrai que dans les autoproductions, vraiment, des gens qui font des trucs tout seuls chez eux dans leur ordinateur, des fois on a des surprises dans les deux sens, quoi. Des fois il y a des trucs super, le mec il a fait ça tout seul et c'est vachement bien. Et d'autres, bon, ils se sont pris un peu pour ce qu'ils n'étaient pas, et puis c'est pas bien, quoi.
Qu'est-ce qu'il y a sur votre agenda dans les semaines à venir? Quels sont les albums sur lesquels vous êtes censé travailler? Est-ce qu'il y a quelques
projets? Avenir, qu'est-ce qu'on a à venir? Je sais pas. Ben là, on doit préparer l'album de Junior Caldera. Ça arrive au compte-gouttes, en fait. Parce qu'ils ont pas
trio
tout fini.
Au bout d'un moment aussi.
Voilà, l'album de trio.
Plein d'autres choses.
Plein d'autres choses, voilà.
Après, on est vachement flux tendu aussi au niveau du planning. Hein. On peut pas te dire.
C'est-à-dire qu'il y a des choses, on sait que c'est en projet, que c'est en cours, qu'on devrait les faire. Et puis, quelquefois, ça prend du retard dans les prods. C'était un truc qui était prévu pour dans la semaine à venir. Et puis, finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ont encore des petites choses à revoir. Là, on vient de finir l'album de Sohan. Puis, on vient de le finir. Il y avait trois petites choses à finir. Voilà. Donc.
Et puis souvent on nous appelle, c'est à faire pour le lendemain. Donc
voilà, c'est on est quand même la dernière étape, donc quelquefois ça presse un peu.
Ah, on a oublié le mastering, il faut peut-être les appeler, les gars.
Voilà.
Bien, et bien donc je vous remercie, Jean-Pierre Chalbos et Mathieu Babel.
Merci
de
votre accueil.
On me dit que je suis paresseux, que je ne fais que ce que je veux, c'est-à-dire pas grand-chose. On dit que je me repose. Je suis désolé, je n'ai que le pied, je n'ai que le pied. Franchement désolé. La vaisselle envahit les pieds et le linge déborde du panier. J'ai les cheveux sales, je suis barbu, mais je m'en vais, mon café bu. Je suis désolé, je n'ai que des pieds, je n'ai que des pieds. Franchement désolé. Et moi j'aime regarder les travaux. On me dit tu balais plus vite que ça s'il vous plaît. Moi je suis désolé, je n'ai que le pied, je n'ai que le pied. Franchement désolé. Elle me dit que je suis en retard, que je me coiffe avec un pétard. Elle veut déplacer les meubles, je suis pas là pour déplacer les meubles. Moi je suis désolé, je n'ai que le pied, je n'ai que le pied. Franchement désolé.
Cobuzz.com Rencontre par Marc Zisman.